Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. En Algérie, 98% de la population se déclare musulmane et une bonne partie d'entre elles est pratiquante. C'est pourquoi la fatwa de l'imam Mohamed Ali Ferkous, en mars dernier, a fait grand bruit et poussé les autorités civiles à réagir. Ce texte excommunie ni plus ni moins du sunnisme tous les courants religieux modérés algériens, comme les malikites, les ibadites ou les soufis, ainsi que les frères musulmans. Autant dire à peu près tout le monde. Les partisans ultra-minoritaires de cette fatwa extrémiste ont été particulièrement virulents sur les réseaux sociaux, visant ainsi la jeunesse du pays. Dans cette émission également, nous ferons le portrait d'un brocanteur du vieux souk de Gaza, un homme qui tente de préserver la mémoire d'un territoire régulièrement confronté à la destruction. C'est un reportage de Guilhem Deltey, réalisé alors que démarraient les escarmouches entre le Hamas et l'armée israélienne. Nous accueillons Isabelle Feuerstoss, docteur en géopolitique, spécialiste du cybermonde arabophone. Bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
La formation originelle date du mois de mars, le 21 précisément. Un certain Mohamed Ali Ferkous poste sur son site internet officiel le communiqué suivant. Clarification sur le fait que ceux qui suivent leur passion n'appartiennent pas à la doctrine sunnite. Isabelle Feuerstoss, rappelez-nous qui est Mohamed Ali Ferkous.
En fait, il s'avère que c'est un cher salafiste matraliste, c'est-à-dire que il a adopté cette idéologie au cours de l'année 2014 et en 2018, il a été reconnu par Rabai al-Matrali comme le représentant officiel de ce courant en Algérie.
Donc, c'est un courant qui vient d'Arabie Saoudite.
Bien entendu, c'est un courant qui vient d'Arabie Saoudite, qui a émergé dans les années 1990 et qui a pris énormément d'ampleur depuis 2011 et les soulèvements dans les pays arabes.
Et alors, que vise finalement Ali Ferkous dans ce communiqué si particulier ?
Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui vise quoi que ce soit. Ali Ferkous, il se retrouve un petit peu en prise au rapport de force qui existe entre les autorités algériennes et les autorités saoudiennes. Pour cela, il faut revenir un petit peu à cette idéologie matraliste. Donc, ce fameux cheikh, le Matrali, est un proche du royaume saoudien. Et son idéologie diffère un petit peu de l'idéologie classique des salafistes piétistes, dans le sens où il suppose une double allégeance hiérarchisée. Dans un premier temps, le sympathisant doit reconnaître l'autorité suprême d'El-Matrali, le cheikh El-Matrali, ou sinon donc de son représentant officiel dans les pays où ils vivent.
Mohamed Ali Ferkous, par exemple, en Algérie.
En l'occurrence, voilà, en Algérie, Ferkous. Et la deuxième allégeance, là qu'on retrouve un petit peu ailleurs, cette allégeance, c'est une allégeance au pouvoir politique en place, des gouvernants. Toutefois, si le chef spirituel, donc en l'occurrence El-Matrali, estime que les gouvernants en place ne sont pas légitimes, c'est l'allégeance au cheikh El-Matrali qui va primer sur le loyalisme à l'égard de la patrie et donc du pouvoir politique dans les pays en question. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que finalement ça constitue un instrument de pression énorme sur les pouvoirs arabes dans la région.
Et alors le communiqué de Ali Ferkous, qui vise-t-il lorsqu'il dit ces personnes qui suivent leur passion n'appartiennent pas à la doctrine sunnite?
Alors, c'est clairement spécifié. Il s'agit des ibadites, des acharites, des soufis et bien entendu des frères musulmans. Les ibadites, les acharites et les soufis, ce sont des courants religieux progressistes qui sont opposés à l'islam rigoriste wahhabite. Bon, les frères musulmans, c'est une idéologie donc de l'islam politique qui diffère radicalement du wahhabisme en règle générale puisqu'il joue le jeu des urnes. Le jeu de la démocratie. Donc, dans un système démocratique, il reconnaît le verdict des urnes. Donc, s'il perd, il accepte son échec. Par exemple, Ennahda en Tunisie en 2014. En revanche, dans un système autoritaire, il prône le recours aux armes et aux soulèvements populaires pour se débarrasser des pouvoirs illégitimes. Donc les FM, c'est vraiment une idéologie concurrente du wahhabisme qui, lui, est soutenu par l'Arabie Saoudite.
Vous êtes spécialiste du cybermonde arabophone, je l'ai dit en introduction. Quelle réaction cette fatwa a-t-elle provoqué sur les réseaux sociaux?
Cette fatwa a provoqué donc un tollé énorme sur les réseaux sociaux, mais qu'on doit mettre en relation avec l'application d'une stratégie de saturation des partisans, justement, matralistes, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Twitter. Donc, on a observé un volume de flux absolument, si vous voulez, c'était du jamais vu, ce volume de flux. Il faut savoir qu'en plus, généralement, les internautes algériens ne sont pas du tout présents sur Twitter. Nous avons observé plus d'un millions de tweets, et ces tweets avaient la particularité d'être émis par des comptes donc soit saoudiens mais également donc algériens, salafistes, maltralistes, et qui disaient tous plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'ils rappelaient leur soutien total à Farkous et dénonçaient les autorités algériennes, leur reprochant justement leur allégeance et leur proximité, sinon, avec ces mouvements sunnites progressistes.
Cela ressemble à une campagne orchestrée.
Ah, tout à fait.
Et orchestrée peut-être depuis Riyad ?
Éventuellement, c'est une hypothèse. Il s'avère que généralement, sur les réseaux sociaux algériens, ce sont les internautes au profil plutôt nationaliste qui s'expriment et qui prennent généralement la défense de la politique étrangère algérienne. Ces partisans matralistes algériens ne sont généralement pas du tout mobilisés sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça interpelle.
Et est-ce qu'on a une idée de leur profil précisément? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, plutôt âgés ou plutôt jeunes, venant de quel milieu social? Est-ce que l'on sait cela?
Alors, on a différents profils. La plupart présentent la caractéristique de mettre sur leur profil Facebook des logos d'allégeance envers le matralisme. Donc ça, c'est vraiment une particularité, c'est qu'ils assument totalement leur positionnement idéologique. De plus en plus, prennent également ouvertement position envers les autorités algériennes sur leur profil. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a bien entendu beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Après, de toute manière, ils diffusent les informations qu'ils veulent bien diffuser. On est bien d'accord. Toutefois, on a identifié des profils de fonctionnaires et même de militaires. Et pour prouver la véracité de ces faits, ces internautes ont photographié leurs papiers d'identité et prouvant bien leur affiliation au corps d'État. Donc ça, c'est aussi donc une tendance nouvelle. C'est-à-dire donc sur les réseaux sociaux, on sait qu'il existe beaucoup de stratégies d'influence, de saturation et de dissuasion. Et donc les propos sont de plus en plus remis en question par les observateurs. Donc là, on voit un souci de crédibiliser, si vous voulez, ce discours et l'existence de ces internautes en diffusant donc des papiers d'identité. C'est aussi une manière de dire aux autorités en place en Algérie que l'Arabie Saoudite, via le matralisme, dispose d'atouts pour faire pression sur les autorités algériennes, dispose d'une capacité donc de mobilisation de ses partisans sur le terrain.
Alors justement, les autorités algériennes, comment ont-elles réagi, elles?
C'est-à-dire que cette mobilisation sur les réseaux sociaux, cette mobilisation des matralistes, vient en réponse justement aux réactions algériennes. Pour la première fois, les autorités ont condamné les propos de Farkous jusqu'à présent. Ils s'étaient abstenus de les condamner. Là, le ministre de la Justice a dû prendre position parce que les propos étaient extrêmement virulents et sectaires et ont réactivé les représentations liées à la guerre civile. Et donc, représentation de menaces, si vous voulez. Et donc là, ils étaient obligés de prendre position. Donc, ils ont même menacé de poursuivre en justice Farkous. Et c'est suite, en fait, à ces propos-là qu'on a assisté à ce tollé, cette mobilisation sans précédent des partisans matralistes. Une mise en garde, en quelque sorte, d'Alger, de la part de Riyad, je suppose, pour dire attention.
Donc une affaire à surveiller, évidemment. Merci Isabelle Feuerstoss. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste du cybermonde arabophone.
Je vous en prie.
Avec vous, nous commentions la fatwa de l'imam Mohamed Ali Ferkous, qui excommunie du sunnisme certains courants religieux modérés algériens, comme les malikites, les ibadites ou encore les soufis, ainsi que les frères musulmans.
Orion Hebdo sur RFI.
Orient Hebdo vous emmène maintenant dans le vieux souk de Gaza, cette enclave palestinienne coupée du reste du monde depuis 11 ans, sous blocus israélien et égyptien depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas. Et depuis 11 ans, ce territoire a déjà connu 3 guerres avec Israël. Bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Eric.
Vous êtes notre correspondant au Proche-Orient. Vous vous êtes rendu à Gaza pour RFI et dans ce territoire qui a vécu donc ces dernières années au rythme des conflits et des destructions, vous avez rencontré un homme qui, lui, essaye de préserver la mémoire de ce territoire.
Oui, il se nomme Salim El Rayes, il a 57 ans et il tient une brocante en plein cœur du vieux marché de la ville de Gaza, le souk Azawiya. Sa boutique est toute petite, elle doit faire 3-4 mètres de large, une dizaine de mètres de profondeur. Elle est souvent plongée dans une semi-obscurité car les ruelles du marché ont été construites de sorte à ce que les passants soient protégés du soleil. Et puis à Gaza, eh bien, les habitants comme les commerçants n'ont que 3 à 4 heures d'électricité par jour actuellement. Alors coincé entre des étals de fruits et de légumes ou de viande, eh bien, ce petit magasin passerait presque inaperçu. Mais c'est une caverne d'Ali Baba locale. Les étagères sont pleines, des livres s'entassent même sur le sol, à tel point qu'il est difficile de circuler dans cette petite échoppe. Le propriétaire des lieux est fier de ses trouvailles, et particulièrement de certaines.
I have valuable books.
J'ai des livres de valeur, comme ce vieux testament, publié en 1832. Je l'ai acheté non à une famille chrétienne, mais à un commerçant musulman. Regardez comme c'est beau. Sur la tranche, là, c'est de l'or, du vrai or, 24 carats. Il y a 5 volumes. Ça, c'est le premier. Ça coûte très cher. Ça pourrait se vendre sur le marché international. Malheureusement, je n'ai que 4 volumes sur 5.
Une vieille Bible, des chapelets de prières musulmans, des théières, des cafetières arabes, de vieux livres en arabe, mais aussi en anglais et même certains en français. Eric, cette brocante est un paradis véritablement pour les chineurs.
Oui, les objets mis en vente sont donc très variés. Et il rappelle que si Gaza est aujourd'hui coupée du monde, la ville était auparavant un important lieu de commerce.
Oui, Gaza est située sur une vieille route commerciale. C'était le port de Méditerranée le plus proche pour les commerçants de la péninsule arabique. Et des caravanes arrivaient jusque-là. C'était donc un lieu d'échange qui a eu des visiteurs de prestige, assure Salim El Rayes.
Vous savez, ce marché, le souk Azawiya, a au moins 2000 ans. Le prophète Mahomet venait ici dans ce marché pour échanger des biens. L'une des preuves de cela est que son grand-père, Hachim, est mort ici, dans ce marché. Et il a été enterré ici, juste à côté de ce marché.
Alors la famille de Salim El Rayes est originaire de Gaza. Et si son père, à lui, était un juge religieux, eh bien le brocanteur compte de nombreux commerçants dans ses ancêtres.
Et Salim El Rayes, quand a-t-il établi son commerce?
Alors c'était il y a 35 ans et c'était déjà dans cette petite échoppe du vieux marché de Gazaville. Depuis, Salim El Rayes n'a jamais déménagé. Et son goût pour les objets anciens est venu tôt, explique-t-il. Ouvrir cette brocante, eh bien, c'était finalement un aboutissement assez logique de ses passions d'enfant.
Ce magasin, il est né d'un hobby au départ. Quand j'avais 10 ans, je faisais des collections de vieilles pièces et de timbres. Petit à petit, je suis passé du hobby au magasin. Progressivement, je me suis mis à vendre de vieilles choses, des antiquités, des vieux livres.
Selling old stuff and antiques and old books.
Cela fait donc 35 ans que cette brocante existe. Donc, depuis sa création, la situation à Gaza a profondément changé, Guilhem.
Oui, Eric, il y a 35 ans, la bande de Gaza était occupée par Israël. Les colonies israéliennes étaient situées dans cette langue de terre. Mais le premier ministre de l'époque, Ariel Sharon, a ordonné le retrait de Gaza en 2005. Les colonies ont été démantelées. Et un petit peu moins de deux ans plus tard, en juin 2007, eh bien le Hamas prenait le pouvoir dans l'enclave. Au terme de trois jours de combat contre les forces fidèles au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Alors, depuis, Gaza vit sous blocus israélien d'une part. Très peu de Gazaouis ont des permis pour sortir du territoire et les produits importés dans la bande de Gaza sont soumis à un strict contrôle. Et puis blocus égyptien d'autre part. Le poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza est fermé la très grande majorité de l'année. Alors, cela fait 11 ans que ce blocus dure et Salim Erayes regrette l'époque d'avant 2007.
During the Israeli occupation,
à l'époque de l'occupation israélienne, Gaza se portait bien mieux qu'aujourd'hui. Tout était disponible. Il y a 35 ans, Gaza était ouverte au monde entier, pas comme maintenant. Le blocus, pour nous, c'est comme un siège. J'avais beaucoup de clients d'Amérique, de tout le Moyen-Orient, de France, de partout. Mais maintenant, je suis désolé, mais je n'ai plus de clients, que les clients locaux.
Alors, ce blocus israélo-égyptien a eu un impact important sur l'économie gazaoui et la brocante de Salim El-Rayes n'a pas échappé à la règle.
Non, en effet, le taux de chômage a considérablement grimpé au cours des 11 dernières années. Désormais, près de 50% de la population active de Gaza est en recherche d'emploi. Salim El-Rayes a lui réussi à maintenir son activité, mais son chiffre d'affaires a baissé avec la perte des clients étrangers, car désormais, il n'y a plus de touristes à Gaza. Les seuls étrangers autorisés à se rendre sur place sont les salariés d'organisations non gouvernementales, les diplomates et les journalistes. Et les clients locaux, eux, font face à des situations financières de plus en plus difficiles et leurs dépenses sont avant tout pour les besoins de base. Les revenus de Salim El-Rayes ont chuté de moitié au moins depuis le début du blocus. Autre difficulté apportée par ce blocus, Salim El-Rayes a désormais plus de mal à trouver des objets à vendre. Avant, il se rendait notamment au Caire deux semaines par an pour aller chercher des marchandises. Aujourd'hui, il lui faut compter sur les seules ressources gazaouis, ce qu'il peut trouver dans les maisons de ses compatriotes qui cherchent à se faire un petit peu d'argent en vendant leurs vieux objets. Mais il arrive encore à dénicher des perles rares.
Last one for Mark Twain.
Le dernier livre que j'ai acheté est de Mark Twain. C'est En suivant l'équateur. J'ai découvert qu'il était dédicacé, mais est-ce que c'est sa signature ? Il a été imprimé en 1899. Il vient d'une vieille bibliothèque ici, à Gaza.
De vieux livres, des vieilles pièces, des timbres anciens, des cafetières, des théières. Avec tous ces objets, Salim El-Rayes retrace-t-il un peu l'histoire de la bande de Gaza ?
Eh bien absolument, il a également une collection de vieilles photos dont il est très fier, des clichés en noir et blanc montrant la bande de Gaza d'avant, des années 50 ou 60, parfois même d'avant la création d'Israël, le Gaza de l'époque du mandat britannique, donc avant 1948. Un Gaza difficile à imaginer aujourd'hui, des maisons entourées de jardins, des femmes en maillot de bain sur la plage. C'est un Gaza disparu que Salim El-Rayes fait vivre un peu dans son magasin, mais pour lui sa brocante ne retrace pas que l'histoire de Gaza.
The history of Palestine is in this store.
L'histoire de la Palestine est dans ce magasin. J'ai de vieux journaux palestiniens, de vieux magazines palestiniens d'il y a 90 ou 100 ans. J'ai de vieilles cartes palestiniennes, de vieux timbres palestiniens et de vieilles photos, des photos en noir et blanc. Tout le patrimoine palestinien est en danger. Ça peut être à cause des bombardements, des roquettes ou de la guerre.
Cette préservation de la mémoire, c'est un rôle que Salim El-Rayes prend très au sérieux dans ce territoire qui a connu trois guerres au cours des 11 dernières années. Il a conscience que le patrimoine peut se perdre rapidement.
Salim El-Rayes, le brocanteur de Gaza, reportage réalisé la semaine dernière. Merci Guilhem Deltey.
Merci à vous, au revoir.
Orient Hebdo est réalisé par Mathias Golshani. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre appli Pure Radio. Demain, nous réécouterons Al Moussika, voix et musique du monde arabe, une émission enregistrée et diffusée en mars dernier à l'ouverture de cette exposition qui dure jusqu'au 19 août à la Philharmonie de Paris. À demain donc, tout de suite, le journal.